Faire briller au grand jour là où les causes d'un hôpital, c'est une chose. Mais faire valoir son intérêt sous l'éclairage blafard des objectifs d'affaires des entreprises donatrices en est une autre. C'est le nouveau rôle du marketing des fondations d'hôpitaux. Point de conversation avec Paul Bergeron, président et directeur général à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Bon podcast!
Ça fait combien de temps que t'es rendu là, toi?
Ça fait 3 ans et 1 mois.
Quand même, hein?
Quand même, oui. Le temps file très rapidement.
Fait que tu peux chasser un gars du pharma, mais tu peux pas le chasser de la santé?
Ben, t'as tout compris parce que, tu sais, dans le fond, j'ai toujours été, moi, dans le secteur médical, que ce soit du côté manufacturier ou que ce soit du côté fournisseur. Toujours été pas mal dans le pharmaceutique, fait que l'environnement des médecins, l'environnement des hôpitaux, c'est un domaine que je connais très bien.
Toi, ça te fait pas peur, les hôpitaux?
Non, ça me fait pas peur. Ça m'a jamais fait peur, puis ça me fait pas peur. Puis surtout pour le travail qu'on a effectué, ils ont besoin de nous, mais on a besoin d'eux autres aussi, beaucoup, pour pouvoir préciser c'est quoi les besoins, les attentes, les projets, pour pouvoir mieux communiquer ça à la communauté pour le donateur. Fait que très à l'aise dans ce système-là. Puis c'est important de comprendre aussi comment que ça fonctionne. C'est quoi la structure, puis c'est quoi les différents leviers, puis quels sont les gens qui décident, quels sont les gens qui ont de l'influence. C'est quand même important de bien connaître ça.
Pour un nounou comme moi qui, à part le dipropionate de béclométasone, a oublié tout son pharmaceutique, comment ça marche la relation entre, mettons, l'hôpital et la fondation en tant que telle? Est-ce que c'est eux qui identifient leurs besoins? Parce que ils ont un autre fournisseur de fonds qui est le gouvernement. Comment ça fonctionne? C'est, ils regardent ce qui est possible avec le gouvernement, puis après ça, vous êtes pogné à remplir l'excédent?
Non, pas vraiment. La façon que ça fonctionne, c'est que tout revient à la mission. Hein? La mission de ta fondation, c'est un peu le positionnement de ta marque. Là. J'exagère un peu, mais la mission de la Fondation de Sacré-Cœur, c'est de supporter des projets qui vont aider au développement de l'hôpital. Alors, ça, ce que ça dit, c'est que on fait pas le travail du gouvernement. Alors, on utilise souvent une blague qui dit, dans vos projets, demandez-nous pas de remplacer des fenêtres ou des lavabos, là, parce qu'il faut que vous les changez, puis vous avez pas eu de budget, puis ça presse. On fait pas ça. Par ailleurs, si le projet, c'est une nouvelle aile de soins, des nouveaux espaces de traitement, puis que dans le projet, il y en a des lavabos, puis il y en a des fenêtres, ben ça fait du sens, mais c'est pas la destination première, c'était pas l'objectif premier du don. Alors, on ne se substitue pas au gouvernement. Et ça, moi, ça me permet, comme PDG de la Fondation, de prendre des décisions face à des demandes qu'on va recevoir. Je vais te donner un exemple. Un de nos projets de campagne qui vaut 2 millions, c'est l'unité des blessés médulaires.
Ouais.
L'unité des blessés médulaires, ça, c'est des gens qui, suite à un accident, un trauma, ont une atteinte à la moelle épinière.
Mm-hmm.
Alors, c'est des gens qui sont pratiquement immobilisés tout le temps de leur réadaptation. Puis, l'hôpital de Sacré-Cœur est un centre d'excellence pour tout l'ouest du Québec.
Oui.
Fait que t'as quelqu'un à Trois-Rivières qui a un accident, puis il pense que la moelle épinière est atteinte, il se pose même pas de questions.
À Sacré-Cœur.
Ici à Sacré-Cœur. Ces gens-là étaient dans une unité que vieillotte, où la canalisation des gaz médicaux était même pas dans les murs. Faut que les inhalothérapeutes arrivent avec des bonbonnes sur roulette. Les chambres étaient petites. Ça ne permettait pas à plus qu'une ou deux personnes en même temps d'accéder aux patients. Il n'y avait pas de système de lève-personne, c'est-à-dire pour déplacer le patient, comme je viens de dire, des patients qui sont immobilisés. Et ça fait longtemps que c'est le cas, et ça fait longtemps que l'administration demande des budgets pour pouvoir mettre ça à niveau, puis ces budgets-là n'arrivaient pas, parce que c'était d'autres priorités qui étaient gérées.
Okay.
Alors nous, on est arrivé avec un modèle de campagne, puis on a dit... On veut faire des projets qui vont se faire rapidement avec notre argent à la Fondation. On n'aura pas à attendre des décisions gouvernementales parce qu'on va vouloir que le patient puisse en profiter le plus rapidement possible et non pas dans 10-15 ans. Alors, sur cette prémisse, l'administration nous est revenue avec des projets, dont celui-là, blessé médulaire. Alors, ça faisait donc du sens de dire, oui, ça peut paraître de la construction, mais depuis 25 ans que c'est demandé, ça marche pas. Fait que nous, comme fondation, on va être proactifs, on va le faire arriver, ce projet-là.
Vous avez identifié différents piliers à supporter, là, je vois pavillon des cliniques externes, centre des soins, santé mentale.
Oui.
Fait que comment ça fonctionne, c'est-à-dire moi je peux donner en général ou dire moi je donne mon argent pour les blessés médulaires parce que mon ongle, ce problème là, c'est une cause qui m'intéresse plus que les autres.
Exactement. Dans le fond, on a comme deux types de campagnes dans une fondation là. On a ce qu'on va appeler une campagne annuelle. Cette campagne annuelle là est là pour répondre à nos engagements sur une base régulière, fréquente. Dans notre cas, c'est la recherche. C'est de l'enseignement, c'est de la demande d'équipement ou de petits équipements que les budgets permettent pas de faire l'acquisition. Et ça, cette campagne annuelle-là, ben, elle est générée, les opérations de communication puis de marketing, ben, on fait beaucoup de relationnel. Alors, on fait du marketing direct avec nos donateurs. L'hôpital sollicite les patients lorsqu'ils quittent. L'hôpital les sollicite, disent ben, si vous voulez encourager votre hôpital, encouragez sa fondation. Puis on fait nos événements. On a nos événements au courant de l'année, nos activités bénéfices, que ce soit on participe au salon de l'auto demain soir, que ce soit le gala au mois d'octobre, le tournoi de golf, bon, on en a toute une brochette. Le marketing direct, les activités, ça vient générer des fonds pour mes campagnes annuelles, pour mes besoins courants. Et parallèlement à ça, ben, tu as des campagnes de développement, comme c'est le cas en ce moment, avec notre campagne, votre signature peut tout changer. Ça, c'est des campagnes qui sont un peu plus importantes, évidemment, et qui sont sur plusieurs années et qui viennent supporter des projets bien spécifiques. Puis pour une fondation, dans le domaine de la philanthropie, là, au Québec, faut être capable de faire du bruit. Faut être capable d'avoir des projets, surtout des produits. Puis une campagne majeure, c'est un petit peu ça que ça nous permet de faire. C'est comme si en entreprise, tu lances un nouveau produit. Ben, si tu regardes ta fondation, tu la regardes comme une business, à proprement dit, ben, ça te prend des nouveaux produits pour pouvoir être actif sur le marché, pour pouvoir aller intéresser tes donateurs actuels, ben, recruter des nouveaux. Ben, une campagne majeure, ça joue ce rôle-là. Il y a une bonne étude de marché qui se fait sur le secteur de la philanthropie. C'est la firme Épisode qui fait ça avec Léger, puis commandité par la Banque nationale. Ils ont sorti l'étude 2020. Ils ont sorti juste un peu avant les fêtes. Et puis, quand on résume le secteur de la philanthropie, bon an, mal an, il y a 3 milliards au Québec. Il y a 3 milliards de dollars qui se donnent en philanthropie. Toutes catégories confondues.
Tout, là. Okay.
La santé, les sports, le bénévolat, le communautaire, la culture, name it. Il y a 3 milliards qui sont disponibles. Il y en a 50% qui proviennent de monsieur, madame, tout le monde, de fondations familiales, donc d'individus. Puis il y a un autre 50% qui provient des corporations. Et ce que l'étude nous démontre, c'est que sur l'ensemble des entreprises qui sont au Québec, des grandes entreprises, il y en a à peu près 200 qui donnent activement et de façon plus importante. Alors ça, on est un peu affecté par la mondialisation des entreprises. Et puis, je vais te donner juste un exemple. On parlait du pharmaceutique tantôt, alors que le pharmaceutique a déjà été des contributeurs quand même importants aux campagnes de financement, c'est beaucoup moins le cas. C'est beaucoup moins le cas pour deux raisons. Dans un premier temps, le pharmaceutique a vraiment donné un focus, a vraiment canalisé ses efforts philanthropiques. En fait, ils ont passé de la philanthropie à du développement de produits, des programmes patients. Il faut vraiment que ça soit attaché avec quelque chose qui est plus nature médicale, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ben, il y a été des années où la décision de faire un don, elle se prenait ici à Montréal, à Laval, à Kirkland. maintenant, la décision de faire le don, elle se prend à New York, ou elle se prend à Paris, ou elle se prend en Allemagne. Tous les portefeuilles, tous les départements de philanthropie puis de commandite sont centralisés, fait que ça devient de plus en plus difficile de tirer son épingle du jeu en tant qu'hôpital régional au Québec.
Fait que ça vous a mis de la pression pour aller voir d'autres amis qui étaient déjà sollicités par d'autres entreprises, pas juste dans la santé, mais dans le culturel, par exemple, etc.
Oui, oui, puis la sollicitation, ça s'est beaucoup raffiné au cours des dernières années. C'est plus vraiment qui connaît qui. Ça peut être qui connaît qui, mais il faut que tu comprennes quelle est la stratégie, quelle est l'orientation philanthropique de l'entreprise. Je vais te donner deux exemples bien concrets. La Banque Royale. Banque Royale est un très grand contributeur à la philanthropie au pays et au Québec. Ils font beaucoup de commandites. Ça, c'est le secteur commercial qui décide. Mais au niveau des dons, c'est la fondation RBC qui décide. Puis ils se sont donné des piliers. Ils se sont donné trois piliers. Et puis, il y a un pilier qui est au niveau de la culture, un pilier qui est au niveau, je crois, de l'environnement. Puis l'autre pilier, il est au niveau de la santé mentale. Ces trois piliers-là visent la population des jeunes adultes 15-24.
OK.
Fait que c'est pas parce que ton président du conseil d'administration connaît la présidente de RBC au Québec qu'il peut faire un coup de téléphone, présenter le projet, puis que le 500 000 va sortir. C'est plus vrai. C'est plus comme ça que ça fonctionne. S'il connaît la présidente, elle va dire oui, OK, je vais vous écouter, on va vous donner un coup de main pour préparer votre dossier, mais il faut que votre dossier corresponde aux orientations de la Fondation RBC. La nouvelle politique de dons d'Hydro-Québec est sortie la semaine dernière, puis tout le secteur de la santé puis de l'éducation, c'est sorti. C'est le développement durable, c'est l'environnement, c'est fait que si tu es un organisme dans le domaine de la santé, tu aurais beau jouer au golf avec Éric Martel, ça t'aidera pas pour avoir ton don, parce que le conseil d'administration s'est doté d'une nouvelle politique. Alors, la sollicitation, quand je parlais tantôt qu'une fondation, c'est une business, ben c'est de plus en plus vrai. Mm-hmm. Parce que chaque dossier de sollicitation, il a été l'objet d'une recherche. Qu'est-ce qu'on peut présenter à qui? Puis quel montant on peut demander? On demande 50 000 ou on demande 500 000? Ça dépend de notre historique. Ça dépend de leur historique à eux de dons dans les dernières années. Puis ça dépend surtout des derniers projets selon leur politique. Alors, ça prend un travail de base, un travail d'analyse, pratiquement du cas par cas.
Toi, t'es arrivé là 3 ans, tu t'étais sûrement fait une image de ce que ça devait être, etc. 3 ans plus tard, c'est quoi la grosse surprise que tu as découvert dans cet univers-là?
La beauté, c'est que il n'y en a pas eu de surprise.
OK.
J'avais une très bonne perspective de dans quoi je m'embarquais, bien humblement. Ça m'a permis d'être très productif quand même rapidement. Et surtout d'amener, je dirais, une vision un peu plus business à ce secteur d'activité-là. C'est avant de prendre une décision, faut qu'on. C'est pas une question juste de sauver de l'argent, mais c'est quoi le coût-bénéfice? Ça va être quoi le retour sur investissement? Mm-hmm. Depuis 3 ans, on a augmenté nos budgets de marketing direct à la hauteur de nos moyens. Je te dirais que pour 1 $ que j'ai investi, j'en ai généré 7 de plus juste dans nos programmes de marketing direct. Fait que, en quelque part, cette approche-là a aidé quand même à donner des résultats. Ce qu'on parlait tantôt en termes de sollicitation, ben ça, sans que ça soit une surprise, je me suis aperçu que c'était un peu plus présent que je le pensais, c'est-à-dire la façon avec laquelle les entreprises décident maintenant de leurs investissements philanthropiques. Je savais que c'était en train de se raffiner,
ouais. Mais
peut-être pas au niveau où on le voit là. Il faut juste être mieux préparé, puis ça demande juste plus de travail, parce que quand tu déposes une proposition ou que tu vas faire une présentation, Ben, c'est un peu comme un pitch dans l'industrie publicitaire. Là, faut que tu cognes sur le bon clou avec la bonne personne, avec les bonnes idées.
C'est ça que j'allais dire.
Tout à fait. Tout à fait. Puis je te dirais que pour avoir été en pub longtemps, pour avoir été en représentation aussi longtemps, ben c'est important d'être à l'aise dans justement pour pouvoir présenter, expliquer tes projets. C'est une expertise qui est utile dans ton développement de messages clés, dans ton développement d'argumentaire. Il y a beaucoup plus de marketing à faire dans la philanthropie que les gens peuvent penser.
Fait que toi, t'es là pour une couple d'années encore de bord.
Si on s'en révélait mon âge, j'ai quand même 38 ans de vie professionnelle en arrière de la cravate. Fait que je me suis fait demander dernièrement quand est-ce que je prenais ma retraite, puis ma réponse a été dans 35 millions. J'aimerais ça quitter en livrant cette campagne-là.
On va te le souhaiter.
Ouais. On a bien du plaisir. Tous les jours, c'est un plaisir. C'est une belle... Je le répète peut-être à outrance, là, mais c'est un environnement qui me permet de mettre à profit ce que j'ai appris dans ma carrière. Mais au lieu de vendre un produit, au lieu d'augmenter la valeur d'une entreprise pour des actionnaires, je redonne à des gens qui en ont besoin. Fait que tu peux pas avoir mieux que ça.
Tu rachètes tes péchés, dans le fond, là. Mon tabarouette.
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier aux Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!